pour ceux qui veulent entrer en métaphysique, je viens de recevoir ce petit livre de Joseph Rassam, Le silence comme introduction à la métaphysique. J'aurais plutôt dit, n'est-ce pas, le silence comme fin de la métaphysique, moi, à la manière de Plotin, le sigé, qui est le dernier moment, l'ultime moment. Parce que je crois que quand on est entré dans le silence, on n'a plus envie de faire de la métaphysique. C'est plutôt la métaphysique qui conduit. Mais on voit ce qu'il peut dire. L'unité du silence et de la parole en l'homme signifie que le langage ne se suffit pas. Le silence est l'âme de toute parole. C'est pourquoi le défaut de notre philosophie, de toute philosophie, se trouve dans l'écart qui sépare son discours du silence qui le soutient. Par suite, est infidèle à elle-même toute philosophie qui nie, refuse ou supprime le silence. Bon, si vous voulez, le silence est pris là comme le dépassement du logos, du discours, du legein. C'est le dépassement du legein. Alors, est-ce que c'est l'introduction à la métaphysique ou au contraire le propre de la métaphysique d'entrer dans le silence? On pourrait très bien dire ça. La découverte des principes, c'est la découverte peut-être du silence du nous. Puisque le principe comme tel ne se dit pas. C'est ça qui... Les catégories, c'est le domaine du legein. Laissons aux catégories ce privilège du legein et du discours. Quand vous êtes dans le discours, vous êtes au niveau catégorial, c'est bien évident. Et vous êtes à l'aise. Tout dépassement du legein nous fait entrer dans le silence. Alors, dans le silence, il y a des profondeurs. Vous voyez, c'est pour ça que dire comme introduction, vous pouvez le lire, c'est toujours intéressant, parce que c'est toujours intéressant de voir... Ce point de vue du silence et la transcendance, par exemple, le silence qui est le dépassement, justement, de tout ce que représente le point de vue du legein. Bon, je n'insiste pas, quitte à y revenir au terme, mais pas maintenant. Alors, je voulais vous montrer hier, c'est édité dans la publication de l'Université de Toulouse, le Mirail, Toulouse 1980, donc c'est tout à fait récent. Il est mort à ça, n'est-ce pas? Et c'est son épouse fidèle qui m'a envoyé ça. C'est gentil de sa part de l'envoyer sur ce point de vue du silence. Bon, alors il faut essayer de comprendre comment l'ousia est source de toutes les autres déterminations. Et je vous disais, la première chose qui est à voir, alors là il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est quand même très important de voir comment la qualité qui ennoblit, qui permet à un être d'avoir, je dirais, sa structure, comme on dirait aujourd'hui. Ce n'est pas la substance. La substance donne l'autonomie. Il y a des êtres autonomes non structurés. Ce sera intéressant à voir la différence entre les deux. Je crois que c'est toute la différence qui existe entre le point de vue de l'ousia. L'ousia, principe d'autonomie. D'autonomie dans l'être. Donc une autonomie radicale. Une autonomie fondamentale. L'ousia est toujours quelque chose de radical et de fondamental. C'est l'axe par où, de fait, la réalité possède cette possibilité d'être elle-même. Elle est elle-même par l'ousia. C'est le noyau de toutes les déterminations qui sont en nous. Donc c'est le noyau de notre solitude, de notre silence par le fait même. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a l'ousia, nous avons une capacité de silence. Parce qu'il y a l'ousia, nous avons une capacité de solitude. C'est bien évident. C'est le point de vue de l'autonomie. Tandis qu'au contraire, la qualité, les qualités sont tout de suite diverses. Et c'est pour ça que je me demande si on ne pourrait pas, dans un langage qui exprimerait quelque chose pour nous de plus immédiat, on pourrait dire que la structure de notre être relève des qualités. Des qualités liées à l'ousia, évidemment. Ce qui donne la structure, qui donne notre manière. La structure, ce n'est pas simple. Hein. Jamais. La structure, c'est autre chose que la simplicité. La simplicité, elle est du côté de l'ousia. Elle est du côté de l'autonomie. Ça, c'est la simplicité dans l'ordre de l'être. Hein. Si on n'avait que l'ousia, on serait absolument simple. Dieu est absolument simple parce qu'il n'y a qu'en lui la substance. Et pas d'accident. Et la qualité se ramène à la substance. Et là, c'est pour ça que c'est la simplicité. Toute la simplicité d'un être, c'est toujours son ousia. Donc c'est son autonomie. Et c'est vrai, un être très autonome et simple. Il y a quelque chose de simplicité qui peut se donner. Tandis que dès que vous êtes dépendant, vous êtes tout de suite complexe. Dès que vous êtes dépendant d'un autre, c'est la complexité. Et l'organisation de la complexité, c'est la structure. On est structuré dans la mesure où notre complexité est déterminée. Si notre complexité n'est pas déterminée, c'est le marécage. C'est l'inverse de la structure. Il y a des êtres marécageux. Vous ne savez jamais où vous mettez le pied. Ça glisse dans tous les sens. Il n'y a pas de structure du tout. Alors c'est vraiment l'inverse de la qualité. La qualité ennoblit. Donc, saint Thomas aime, c'est important, parce que c'est un terme qui n'est pas aristotélicien. La nobilitas. La nobilitas d'un être, c'est sa qualité. C'est la nobilitas d'un être. Vous voyez, c'est la noblesse d'un être. C'est sa structure. Un être est noble s'il est structuré. Autrement, encore une fois, vous ne savez plus où vous mettez le pied. Tandis que la noblesse d'un être, c'est vraiment sa qualité. C'est ça qui lui donne une certaine tenue. Il y a une tenue, sa tenue propre. Ça relève un être à quelque chose de propre, de net. Vous voyez, ça, c'est la nobilitas. Pour essayer de comprendre, il faut comprendre d'abord ce que ça représente avant de regarder dans les catégories les diverses qualités. Vous pouvez très bien regarder les diverses qualités dans les catégories, les espèces de qualités dans les catégories, et rien comprendre du tout à la qualité. Alors, ici, au contraire, j'essaie de comprendre ce qu'il y a de plus profond dans la qualité. C'est ce que doit faire le métaphysicien. Le métaphysicien doit comprendre la qualité dans l'ordre de l'être. Donc, dans l'ordre de l'ousia, ce qui amène cette nobilita, cette noblesse de l'être, cette structure de l'être, cette originalité. Il faut toujours mettre ça. Il y a des originalités bonnes et des originalités mauvaises, mais celle-ci, c'est l'originalité qui structure un être. C'est d'abord cette dimension-là. Deuxièmement, la qualité permet le contact avec les autres. Les rencontres. Si je n'avais que l'ousia, je serais monolithe. Un être qui n'a que l'ousia est monolithe. Aucune rencontre possible. Alors, ne croyez pas que tous les êtres qui sont monolithes, ce sont des ousia. Hein. Non, attention. Mais c'est vrai que l'ousia nous rend monolithe, donne l'autonomie absolue. Tandis que la qualité va permettre les rencontres. Pourquoi ? Parce que la première chose que je rencontre dans un être, ce sont ses qualités. Donc, du côté de la connaissance, ça, alors, c'est très important. Du côté de la connaissance, la qualité a quelque chose d'immédiat. C'est pour ça qu'aucune philosophie ne rejette la qualité. Du moins, j'en ai pas vu. On l'exalte plus ou moins, mais aucune philosophie ne rejette la qualité. Toutes les philosophies acceptent la qualité et la relation. Tandis que toutes les philosophies n'acceptent pas l'ousia. Parce que l'ousia n'est pas connue immédiatement. Elle est connue médiatement par l'intermédiaire de l'induction. Et si elle est connue par l'intermédiaire de l'induction, il y a donc possibilité de ne pas l'atteindre. Tandis que la qualité, à moins d'être un être sans qualité, ce qui n'existe pas. Nous avons tous des qualités. On a des qualités d'homme frustre, on a des qualités d'homme cultivé, on a des qualités d'homme décadent. Alors, il y a des qualités diverses, c'est sûr. Il y a la qualité de l'homme frustre, à partir de là, on peut tout faire. C'est déjà beaucoup. L'homme décadent, on ne peut plus rien faire. C'est la décadence. C'est la décadence, et c'est une qualité, parce que c'est quand même une qualité qu'on saisit immédiatement. Et puis, il y a la qualité de l'homme qui est ennobli, dans le très grand sens. Alors, la qualité permet le contact direct avec les autres. C'est ça la chose très importante de la qualité. C'est le contact immédiat. Par la qualité, je rencontre un être. Donc, du côté de la connaissance et du côté de l'affectivité, nos deux manières de rencontrer un être, la qualité est immédiate. Donc, c'est de l'ordre de la manifestation. Nobilitas. La qualité manifeste un être. Donc du côté de la connaissance, il y a une manifestation qui se fait du côté de la qualité. Alors ceci, évidemment, c'est avant tout les qualités sensibles. Les qualités sensibles, mais avec les qualités sensibles, l'intelligence. Mais on saisit un être intelligent. C'est du pur argent. Ça saisit, c'est quelque chose de... Il y a des êtres subtils, et ça se voit tout de suite. Ils saisissent immédiatement. Puis il y a des gens qui mettent longtemps à saisir. Un quart d'heure après, ils rient. On sait très bien ce que ça représente. On dit que c'est alors, on se demande s'ils ont compris pendant un quart d'heure. Alors, c'est plus très immédiat. De temps, on a eu le temps de faire des raisonnements sur la question de la qualité de leur intelligence. La manifestation, l'intelligence manifeste. Et alors, troisième aspect, la qualité ordonne. Il y a un ordre dans la qualité. Ordonne vers quelque chose d'autre. Un être qualifié est un être qui est ordonné, qui est finalisé. Je crois que c'est les trois grands aspects de la structure d'un être. Ça, ce serait très intéressant à étudier au point de vue structure, vous voyez. Il faudrait voir alors avec le structuralisme, si le structuralisme nous met bien en lumière ces trois grandes dimensions de la qualité. La noblesse, l'originalité, donc la détermination propre. La détermination propre d'un être, son originalité. La manifestation, au point de vue de la connaissance, je le saisis immédiatement, le style particulier d'un être. Et puis l'ordre vers, qui n'est pas nécessairement, vous voyez, l'ordre qui est finalisé. La téléonomie, ça fait partie justement d'une qualité. On est ordonné vers, je mets finalisé, mais ça peut être un ordre dynamique interne. C'est pas nécessairement la fin, c'est pas encore la fin la qualité. Hein. C'est ce que je possède. Alors, je crois que ce sont les différents aspects au point de vue proprement métaphysique qu'on doit saisir dans la qualité. Et toutes proviennent de l'ousia. Et donc me font comprendre ce que c'est que cette source cachée. Cette source cachée ennoblie, cette source cachée est source de toute intelligibilité. Cette source cachée a une possibilité d'une communion avec les autres, l'ordre avec les autres. Alors vous voyez que là, on retrouverait facilement les diverses qualités qui sont données dans les catégories. L'ordre vert, c'est l'habitude, c'est la disposition. La manifestation, c'est les qualités sensibles. La nobilitas, c'est la capacité, le pouvoir. Vous avez donc les trois grands aspects de la qualité. Il y en a quatre, hein, je sais bien, vous allez me dire, vous n'avez cité que trois. Il y en a quatre, selon les catégories. Selon les catégories, il y en a quatre. Quelle est la quatrième? La figura. Alors la figura, vous voyez que la figura, elle peut être ici. Et elle peut être ici.
Elle est quelque chose entre les deux.
Parce que la figura, ce que dit Aristote sur la figura, c'est très intéressant. C'est par là que je saisis l'originalité d'un être. La figura, ce n'est pas la figure, hein, comprenez, c'est le style particulier de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un de courir, vous dites tout de suite c'est un lapin. Ou si vous êtes connu, vous dites c'est un lièvre. Vous voyez tout de suite. Parce que vous voyez le style, il ne court pas de la même manière. Et dans les hommes, c'est comme ça aussi. Il y en a qui courent à trois pattes, et il y en a qui courent à quatre. Vous voyez, ça dépend. Il y en a deux. Ça dépend de la rapidité avec laquelle ils vont. Alors vous avez donc un style particulier, la figura. Et c'est très fort dans le structuralisme, la figura. Qui est une qualité intermédiaire, oui, qui est une qualité entre le pouvoir, la capacité et puis la qualité sensible. C'est une manifestation, je me manifeste par ma figura. C'est par ma figura que je me manifeste aux autres. C'est évidemment la première chose que je vois. Je vois ça avant tout. Et par là, j'ai le style de quelqu'un. La manière dont il parle, la manière dont il agit, la manière dont il se situe. Donc, il y a là tout ça qui est le point de vue de la qualité. À côté de la qualité, il y a la quantité. Passons tout de suite, hein, parce que nous allons vite ici. La quantité. La quantité, elle se rattache aussi à l'ousia, mais pas à l'ousia tout court. Elle se rattache à l'ousia individualisée. À l'ousia en tant qu'elle se réalise dans la matière. C'est le pos de l'ousia qui implique le point de vue de la quantité. C'est pas l'ousia toute seule. Alors vous allez me dire c'est la même chose pour la qualité. C'est très vrai que seule la nobilitas et l'habitus, d'une certaine manière, pourraient se rattacher à l'ousia dans ce qu'elle a de plus propre. Tandis que la figura et les qualités sensibles impliquent toujours la quantité. Il y a des liens entre les deux, hein. Il ne faut pas séparer. Il faut distinguer qualité et quantité, mais de fait, presque toutes nos qualités impliquent la quantité. Il y a des qualités profondes de notre être qui n'impliquent pas la quantité. Notre capacité d'intelligence. Donc notre originalité, notre nobilitas la plus profonde, elle n'implique pas la quantité. La qualité de notre cœur n'implique pas la quantité. Tandis qu'au contraire, les qualités sensibles impliquent la quantité. La figura implique la quantité. La figura de quelqu'un qui est un petit tonneau ou de quelqu'un qui est au contraire un boulot, eh bien, ça, c'est la quantité qui fait ça. Ça joue beaucoup pour la figura. Ce n'est pas la même chose du tout de voir de manière différente. Un tonneau demande de rouler et un boulot demande de pousser tout droit. Et ça fait des figuras très, très différentes. Et dans les physionomies humaines, ça fait des figuras assez différentes. Vous voyez, ce n'est pas la même chose du tout de voir la figura parce qu'elle implique le domaine de la quantité. Tandis qu'au contraire, l'ordre vert, non. Alors, le domaine de la quantité, qu'est-ce que c'est que le domaine de la quantité? Je dis bien qu'il se rattache à l'ousia par le point de vue du pos. Comment l'ousia assume la matière et donc individualise. Et c'est pour ça que, d'une façon générale, on a dit que la quantité individualisée. Il faut bien comprendre cela, c'est un très gros problème qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui, au fond, au point de vue métaphysique, est assez simple. Une fois qu'on a compris que l'ousia assumait la matière. L'ousia assume la matière par la quantité. Et donc, c'est de l'ordre du pos, de l'ordre du comment. Et le point de vue de la quantité, c'est ce qui nous conditionne. Nous sommes conditionnés par notre quantité. Ça, c'est bien évident. Je ne dirai jamais que la qualité te conditionne. La qualité se ramène à la fin, la qualité se ramène à notre autonomie. La qualité nous rend plus autonomes. C'est évident que la qualité de l'intelligence nous permet de vivre de notre autonomie. Un être très intelligent est autonome. Mais d'une intelligence qui est vraiment la qualité, hein, la qualité de l'intelligence. plus vous êtes intelligent, plus vous êtes autonome. Plus vous perfectionnez votre intelligence, plus votre autonomie augmente. C'est du côté donc qualitatif, ça, qui augmente la qualité. Plus vous êtes qualifié du côté de l'amour, du côté de la volonté, alors vous allez dire, plus vous êtes ordonné vers. Et c'est très curieux, les deux aspects, hein, par où, de fait, les qualités se manifestent le plus. L'aspect, donc, de l'autonomie, l'aspect de l'ordre vers. Les deux grands aspects. Tandis que le domaine de la quantité, il est à finalité. Il implique une absence totale de finalité. Dans le monstre, il y a des monstres intellectuels comme il y a des monstres physiques. Dans le monstre intellectuel comme dans le monde physique, c'est le domaine de la quantité qui l'emporte. Situation limite à cause de la quantité. Alors la finalité est absorbée. La finalité, on n'en parle plus parce qu'on est dans le domaine du quantitatif. Et le domaine du quantitatif, c'est le domaine du divisible par excellence. C'est le domaine du divisible par excellence. C'est important de comprendre que la quantité peut très bien nous faire sortir complètement de l'orientation de la finalité. Et c'est monstrueux au niveau proprement intellectuel. C'est monstrueux quand la quantité s'impose d'une manière telle qu'on ne voit plus que la quantité, on est devant un monstre. C'est ça le monstre. C'est quelque chose qui n'est plus finalisé. Alors, la quantité donne ce caractère particulier d'un être qui devient divisible. Alors, sous ce point de vue-là, vous comprenez bien que la quantité semble dialectiquement s'opposer à l'ousia. C'est intéressant. L'ousia donne l'autonomie, la quantité donne la divisibilité. La qualité, elle, n'est pas divisible. La qualité se saisit comme quelque chose d'absolument indivisible. La figura, elle, est divisible en raison de la quantité. La qualité sensible est divisible en raison de la quantité, mais en elle-même, comme qualité, elle est indivisible. Le propre de la qualité, c'est d'être indivisible. Le propre de la substance, c'est d'être autonome. Le propre de la quantité, c'est d'être divisible. Vous avez là trois grands aspects qui sont très importants à saisir et qui nous font comprendre le caractère propre du côté de l'être. L'être implique l'autonomie par la substance, l'être implique quelque chose d'indivisible par le domaine de la qualité, l'être implique un domaine de divisible par la quantité. Nous sommes divisibles par la quantité. Alors vous comprenez que dans un monde où la connaissance est avant tout la mensuration, dans un monde où la connaissance est de plus en plus la mensuration, quelle est la seule chose qu'on va retenir? C'est la quantité. Et on va se trouver assez vite devant un monde monstrueux. Vous pourriez prendre des quantités de domaines comme ça, voir toutes les applications, même en économie. On verrait ça. On verrait que dans la mesure où je ne regarde plus que l'aspect du mesurable, qui regarde le point de vue divisible, je ne vois plus du tout la finalité. La finalité est absorbée. Donc je ne vois plus que le domaine du divisible. Et dans la mesure où je ne vois plus que le domaine du divisible, je suis devant quelque chose de monstrueux par rapport à l'homme. On est étouffé. C'est le monstre. Vous voyez, ce qui est montré admirablement, ceux qui connaissent un peu Hésiode, vous savez bien ce passage d'Hésiode affolant dans la Théogonie, n'est-ce pas? Où on voit comment la quantité absorbe tout. Et alors, c'est d'où l'irritation et la colère de Zeus de voir ça. C'est important de voir que le domaine de la mensuration qui met en lumière le domaine de la quantité, puisque la seule, vous voyez, les deux aspects très différents de la connaissance que vous voyez ici, je vous disais tout à l'heure, la qualité nous permet une connaissance immédiate. la mensuration n'est jamais une connaissance immédiate. Et ce sont nos deux grands procédés de connaissance. Nous sommes des êtres plus intuitifs d'une connaissance immédiate. Nous sommes des êtres plus certains par le point de vue de la mensuration. Des êtres qui peuvent davantage justifier leurs procédés. Les deux grands procédés de connaissance. Quantité, qualité. On est sensible à l'un ou à l'autre. Et au bout d'un certain temps, il faut être sensible aux deux, hein, si on veut être philosophe. Le philosophe ne rejette pas la quantité, mais le philosophe empêche la quantité d'être monstrueuse, empêche la quantité d'être première. La quantité est toujours seconde, toujours. J'allais presque dire, mais là, la troisième situation. Première situation du côté de l'être, l'ousia. Seconde situation du côté de l'être, la qualité. Troisième situation du côté de l'être, la quantité. Elle est la troisième situation. Et elle n'est pas du côté des principes, elle est du côté du pos. Elle est du côté du commun. Mais elle est la troisième situation. Elle est essentielle. Dans notre monde physique, c'est absolument essentiel. La quantité a son intelligibilité, le divisible. Le divisible a son intelligibilité qui est propre et qui est une intelligibilité irréductible à la qualité. Mais si je mets la qualité entre parenthèses, ce que je fais dans la mensuration, une connaissance qui n'est plus qu'une connaissance par la mensuration, mais entre parenthèses la qualité, parce que la qualité, je ne peux pas la mesurer. Oui. Alors là, il y a des quantités de problèmes qui sont très intéressants à voir, parce que je crois que le problème de la quantité nous éclaire sur une quantité de problèmes. Si on ne regarde pas ce que c'est que la quantité, on ne comprend absolument pas ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de plus en plus où la quantité prime. C'est la quantité qui prime. Alors dans la mesure même où on ne regarde plus que la mensuration, le point de vue de la qualité est mis entre parenthèses, on ne le rejette pas, mais c'est mis entre parenthèses. Et l'ousia est mis entre parenthèses, et on n'a plus qu'un monde de la quantité. Et c'est ça que je dis, à partir de ce moment-là, on est devant un monstre. Oui. On ramène tout à la mensuration. Et alors on dit que seule la connaissance mesurable est objective. Descartes avait déjà dit ça, faut pas l'oublier. Donc, depuis Descartes, on répète ça, que l'objectivité nous est donnée par la mensuration. Et on comprend très bien comment on peut dire ça, parce que la mensuration a ceci de tout à fait objectif, que je peux répéter cette opération. Et alors, on identifie objectivité et répétition. Une connaissance est objective quand je peux la répéter. Oui. Alors je ramène la connaissance à une des conditions de la connaissance, qui est la répétition. Je comprends très bien une expérimentation est dite objective et dite scientifique si je peux la répéter. Si je ne peux pas la répéter, non. Alors c'est ça qui est très très curieux et c'est intéressant à voir que c'est au fond ramener la mensuration. Veut dire, la mensuration se ramène à la quantité, au divisible, j'exclus le reste, et à partir de là, je me donne une idée particulière de ce qui est objectif, qui implique une possibilité de répétition. Tandis qu'au contraire, ce qui est le propre de la qualité, c'est que justement, on ne peut pas la dominer, on ne la mesure pas, et donc on ne peut pas la répéter. Vous voyez un très beau coucher de soleil, ça ne se répète pas. Vous chercherez le lendemain, non, ça ne se répétera pas. Ça ne se répète pas. Donc, ce n'est pas objectif. Hein, j'ai dit ça simplement, ce n'est pas objectif, ça ne se répète pas. Et pourtant, vous affirmez que vous l'avez vu. Ce n'est pas objectif scientifiquement. C'est objectif philosophiquement. Vous voyez les querelles que peut y avoir, c'est important. Et ça, c'est qualité et quantité. Là, vous avez deux domaines très importants à voir parce que c'est intéressant à saisir ces deux aspects. Troisième aspect, quatrième position, dans l'ordre de l'être, hein, la relation. Donc, la quatrième position. Dans l'ordre de l'être. Et en effet, la relation, c'est l'être le plus ténu. C'est ce que dit Aristote. C'est l'être le plus ténu, la relation, au point de vue de l'être. Parce que la relation sera toujours dépendante ou de la qualité ou de la quantité. Et donc, c'est quelque chose qui vient de fait s'ajouter à la quantité, s'ajouter à la qualité, s'ajouter à la passion ou à l'action. Ce n'est jamais quelque chose qui se tient par soi-même, le propre de la relation. Il faut toujours être deux. Donc il faut toujours une béquille, il faut que l'autre soit là pour soutenir. Il faut toujours être deux. Il n'y a pas de relation sans dualité, sans deux termes. Deux termes correlatifs. Puisque c'est le propre de la relation, c'est d'être vert. L'être de la relation, c'est d'être ordonné vert. En grec, pros, prosti. Il est vert, face à face. On est tourné vers le propre de la relation. Donc le ad latin. C'est très difficile à saisir. Hein? C'est quelque chose de très subtil à saisir, la relation. C'est quelque chose de très très important. Je mets quatrième position, vous comprenez bien. Dans une philosophie qui commence par la substance. Mais dans une philosophie qui commence par le point de vue de l'esprit et non plus de la substance, qui regarde en premier lieu la subjectivité transcendantale du nous. Donc une philosophie qui commence par le nous. La relation est première. Pourquoi ? La relation est-elle première dans toutes les idéologies qui commencent par le nous. Toutes les idéologies ont au cœur d'elles-mêmes la relation. Et la relation fait comprendre le contenu de cette idéologie. C'est par la relation qu'on doit regarder une idéologie et voir le caractère propre des idéologies. Ce serait intéressant comme étude critique de toutes les idéologies de voir la manière différente dont elles se servent de la relation. Parce que les idéologies commencent par le point de vue de l'esprit. C'est l'esprit qui est premier et c'est le développement de l'esprit par le point de vue de l'idéologie. Et quand on commence par le point de vue de l'esprit, la relation est première. Pourquoi ? La relation est plus proche de l'intelligence que l'ousia. C'est curieux, ça. Ça, c'est très, très curieux. Alors vous allez me dire, mais non, mais non, mais non. Puisque primo cadit in intellectus ens. Alors si c'est ce qui tombe en premier lieu dans le nous, c'est l'ens. L'ens est premièrement l'ousia, ce qui est, n'est-ce pas ? C'est premièrement l'ousia, donc c'est pas du tout la relation.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que c'est plutôt la qualité en tant qu'elle se manifeste ?
Ah mais je cherche. Je dis que le nous regarde en premier lieu l'ens, c'est la fameuse phrase de saint Thomas, donc au fond c'est bien l'ousia. Attention, saint Thomas en donnant ça tout de suite montre, nous allions dire, une certaine vue de l'esprit. C'est l'intelligence dans son réalisme, donc ce n'est pas l'idéologie. Dans l'idéologie, au contraire, c'est le repliement sur l'intelligence, l'attitude réflexive qui est première, et l'intelligence réfléchit sur ses idées. C'est l'intelligence qui réfléchit sur ses idées et qui considère l'idée comme quelque chose d'absolu. Considérer l'idée comme quelque chose d'absolu, c'est donc immédiatement faire intervenir la relation. Immédiatement. C'est la relation qui apparaît en premier lieu. Tandis que si l'intelligence est ordonnée vers le réel, donc vers ce qui est, l'ousia apparaît immédiatement. Elle n'est pas saisie immédiatement, elle est saisie par l'induction, mais elle est saisie avant la relation. Alors oui, ça c'est très important de dire ça au point de vue critique, mais au point de vue métaphysique, les deux se tiennent ici. C'est de saisir le lien, on pourrait poser ça d'une autre manière, saisir le lien qui existe entre la relation et le nous, et le lien qui existe entre l'ousia et le nous. Et vous pouvez ajouter le lien avec la qualité, tout à fait d'accord, la manifestation. Vous voyez, vous pouvez très bien vous poser la question, et avec le lien avec la quantité. Vous voyez, chacune sont en relation avec l'intelligence. J'aime ici de voir tout de suite les deux extrêmes, parce qu'au fond, c'est les deux extrêmes. C'est l'ousia et la relation. La qualité est dépendante de l'ousia, donc c'est autre chose. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'idée, quand je commence par l'idée, la relation tout de suite. Alors c'est ça qu'il faudrait se poser. Comment se fait-il que toute idée implique une relation ? Ça, je crois que toute idée implique une relation. Vous savez bien, il y a un petit problème très intéressant à propos de la relation. C'est de voir que, alors là, j'appelle aux catégories. Les catégories nous disent qu'il y a une relation prédicamentale et puis qu'il y a une relation qui n'est pas prédicamentale. Secundum dici, n'est-ce pas? Secundum dici. Bon, il y a une relation prédicamentale. Autrement dit, on dira que la relation est ou une relation réelle, ou une relation de raison, ou une relation transcendantale. C'est pas mal, trois domaines dans la relation. Hein? Relation réelle prédicamentale, c'est le pros. La relation de raison, c'est l'intelligence qui la forme. Et la relation de transcendantale, c'est un ordre. Un ordre transcendantal. Eh bien, est-ce que lorsque je commence par l'idée, est-ce que justement je ne suis pas en présence tout de suite d'une relation de raison présente dans l'idée ? Puisque l'idée est prise comme un absolu. Qu'est-ce qui rend l'idée absolue ? C'est mon intelligence. L'idée par elle-même, le concept par lui-même, est dépendant de quelque chose d'autre. Il est relatif à. Donc il est un ordre vers. Il est une relation transcendantale, le concept. Mais si je coupe le concept de son ordre vers l'objet, je le réfléchis sur lui-même et donc je le regarde dans son origine par rapport à l'intelligence. Et donc je regarde l'idée comme universelle. Et c'est en ce sens-là qu'elle est un absolu. L'idée n'est un universel l'idée n'est absolue qu'en tant qu'universelle. Et donc c'est par le point de vue de la relation de raison qu'elle devient un absolu. Et par là, je peux dire que dans toute idéologie, la relation est première. Je le dis rapidement, simplement pour exciter un peu votre intelligence à la recherche, à essayer de comprendre qu'il y a là quelque chose d'important à saisir, que de fait, les idéologies ont un primat de la relation. Et ça, c'est un fait. Regardez, Hamelin, c'est lui qui le dit le mieux. Je crois que c'est la philosophie néo-hegélienne d'Hamelin qui montre le mieux, parce que là, l'avantage d'Hamelin d'être un mathématicien, donc il est très clair, beaucoup plus que Descartes. Il est très clair. Descartes n'est pas assez matheux pour être très clair, n'est-ce pas? Tandis que Hamelin l'est beaucoup plus. Et alors Hamelin montre qu'au cœur de toute la philosophie, de toute la dialectique, c'est la relation. C'est la relation qui anime toute la philosophie. L'être mathématique est un être relatif. C'est la relation. Et l'idéologie, c'est une relation. L'être mathématique est beaucoup plus relationnel ou beaucoup plus relation que quantité. Les anciens disaient les mathématiques, c'est la quantité. Aujourd'hui, on doit dire beaucoup plus que l'être mathématique, c'est la relation. Vous voyez, au Solchoir, avec le père Gérard Deslauriers, qui était un bon matheux, hein, un excellent mathématicien, eh bien, le père Gérard était épris de la relation d'une manière extraordinaire. Pour lui, il avait une peine énorme de comprendre la substance, mais c'était la relation qui expliquait tout. Et je comprends très bien que dans un monde d'intelligibilité, dans le monde d'intelligibilité, la relation explique tout. La relation est première du côté de l'intelligibilité, donc du côté des idéologies. Elle est première. Elle est celle qui s'impose, et qui s'impose comme, justement, la première chose que nous connaissons. La qualité est immédiate au point de vue connaissance, mais elle conduit à la substance. Tandis que la relation ne conduit pas à la substance. C'est ça la très grosse différence. Et c'est vrai que je pourrais dire qu'il y a deux connaissances immédiates. Deux connaissances immédiates. La qualité et la relation. Au point de vue connaissance immédiate. Mais la différence, c'est que la qualité conduit à la substance, tandis que la relation enferme sur elle-même. C'est très curieux. Ce qui est relatif devient ce qui est le plus immanent. C'est très curieux, ça. C'est une chose assez étonnante. Parce que la relation enferme sur elle-même. Je ne peux pas découvrir la substance si je commence par la relation. Et donc, je ne redécouvre plus rien. Que la relation. La relation, vous voyez, va se développer par elle-même dans un développement particulier qui est le développement dialectique. Et le développement dialectique, c'est un développement qui se fait au niveau de la relation. Là, encore une fois, je vous donne simplement pour vous rappeler qu'il y a là un très gros problème au plan métaphysique et très important, ayant saisi l'ousia de comprendre la qualité, la quantité, la relation. Alors, les diverses relations se posent. Donc, là, simplement pour vous montrer le jeu qui peut exister et l'importance de la relation. Si je regarde la relation du côté réel, je vois que la relation est un être débile. C'est parce qu'il est le plus petit, le Benjamin des catégories, n'est-ce pas, le plus débile. Alors, il est le plus débile. Parce qu'il est le plus débile, il peut se gonfler le plus. D'une certaine manière, et devenir l'être de raison. Vous voyez, c'est là. Alors il passe devant tous les autres, et passant devant tous les autres, il s'impose l'être de raison, et il devient le point de vue premier. Autrement, au plan métaphysique proprement dit, la relation est toujours un être débile qui présuppose un autre. C'est ce qu'on dira, la relation est un être complexe, qui implique deux termes, toujours deux termes, et qui implique un fondement. Un fondement à ces deux termes. Et qui implique un sujet. Donc il y a toujours trois aspects sous lesquels je peux regarder la relation. Le sujet qui regarde ça. Prenez l'exemple, hein, l'amitié. L'amitié est une relation entre deux amis. C'est une relation entre deux amis. Bon. L'amitié implique donc les deux termes, relation entre les deux amis. Si je suis seul, je ne peux plus exercer l'amitié. Donc, quelque chose qui va plus. Il faut toujours être deux pour exercer l'amitié. L'amitié implique un fondement. Il y a des amitiés de similitude, il y a des amitiés de complémentarité. Les amitiés de similitude, c'est plus facile. Les amitiés de complémentarité, c'est plus rude. Il y a des gens qui ne veulent voir que les amitiés de similitude. Moi, je ne m'entends qu'avec ceux qui compensent comme moi. C'est très très bien, mais au bout d'un certain temps, on manque d'oxygène. Vous voyez ? Parce qu'on ne prend que ceux qui s'entendent avec nous, les amitiés de similitude. Il y a les amitiés de complémentarité. Le fondement est tout à fait différent. Et le sujet, c'est l'homme qui exerce cette amitié. Vous voyez ? Vous avez divers types d'amitiés, si vous voulez que vous pouvez prendre, divers types, je veux dire, de relations. Quand vous prenez la similitude, on a le même genre d'intelligence, on s'entend. On a au contraire une très grande diversité et une opposition, oui, de types de relations. On a un autre type de relation dans l'ordre de la quantité. On pèse le même poids, l'égalité. c'est un type de relation que le vous. À droite, ceux qui pèsent au-dessus de 100 kilos, et puis à gauche, ceux qui pèsent moins de 100 kilos. C'est-à-dire de l'ordre de l'égalité et de l'ordre de l'inégalité. Ce sont des relations. Vous voyez, des relations qui se fondent sur la quantité, des relations qui se fondent sur la qualité. Des relations qui se fondent sur l'action. Trois types de relations. En fonction des fondements. Alors, je ne reviendrai plus là-dessus. J'attaquerai la semaine prochaine la métaphysique de l'acte et de la puissance.